difficile, ou si vous n'avez pas un bib avec vous, de prendre la fin qu'on vous a donnée à la porte. Et on va voir quelque chose d'intéressant ce matin, qui va être une source d'encouragement et de consolation, je crois. Mais juste avant, on veut faire une déclaration de la foi. Parce que nous croyons que ce qu'on dit avec la bouche, tout en croyant du cœur, s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen, amen. Donc, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Donc, ce matin, c'est un peu différent. J'ai terminé une série que ça a duré, quoi, 4 ou 5 semaines sur comment vivre comme un arbre planté près des eaux. Et ce matin, j'ai quelque chose dans mon cœur. Ça va de pair avec un peu. Hein, parce qu'on a dit que dans le Seigneur, on doit être capable d'être enraciné dans le Seigneur pour qu'on ne soit pas emporté par toute circonstance ou par toute vente de doctrine, etc., etc. Et donc, le titre ce matin, c'est « Laissez-vous pas ébranler ». Et combien de vous, vous avez déjà connu des personnes qui ont été ébranlées, ils ont eu peur, ils vivaient dans les craintes. Et aujourd'hui, dans notre société, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ouvrir la télévision et on entend des choses qui, des fois, sont épouvantables, n'est-ce pas? Et vraiment, le message ce matin, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir, mais en même temps, c'est un avertissement. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre monde que si on n'est pas vraiment ancré dans la parole de Dieu, on pourrait être facilement ballotté ou on pourrait être facilement influencé, où on peut même tomber dans la peur ou la crainte et avoir l'air de ces personnes-là. Hein? Donc, c'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Et juste dernièrement, il y a des choses qui sont venues à mes oreilles aussi. Et c'est pas souvent que je vais traiter un sujet comme ça un dimanche matin, mais dans mon cœur, je me suis dit que ça serait une bonne chose. Mais vous savez que souvent, on voit qu'est-ce qui se passe à la télévision, on entend parler des crises et des problèmes sur le plan international, on parle des pandémies, on parle de la terrorisme, on parle de la fin du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ça même dernièrement? Et malheureusement, il y a des choses qui peuvent être dites ou propagées, même dans le contexte de certaines églises ou même parmi les gens qui se disent chrétiens, qui sont des vrais croyants même. Il y a des choses qui peuvent être entendues, partagées et propagées qui ne sont pas vraiment fondées dans la parole de Dieu, mais qui sont plutôt fondées dans les idées et les opinions. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut bouleverser, ça peut ébranler, ça peut déranger certaines personnes. Et c'est rien de nouveau. Ça, c'est une affaire qui existe depuis tout temps. En fait, on va voir aujourd'hui un verset de la parole de Dieu que l'apôtre Paul a écrit il y a déjà presque 2000 ans, et il y a 2000 ans, il y avait le même genre de manifestation, le même genre de problème qui circulait dans les églises. Et là, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Parce que malheureusement, même dernièrement, je sais qu'il y a certaines personnes, même de notre église, qui ont reçu des lettres, qui ont reçu des emails. Il y a des choses qui se partagent aujourd'hui avec l'Internet, beaucoup de choses qui se partagent. Et il y a même des personnes qui ont propagé certaines prophéties en disant que Jésus va revenir avant le 22 septembre cette année. OK? Donc, et des personnes qui font ça sont sincères, et j'en connais plusieurs, ils aiment Dieu et tout cela. Mais le problème, c'est que c'est pas biblique de propager un tel message, et on va voir cela aujourd'hui. Et aussi, on regarde le fruit de certaines de ces lettres et ces événements. Des fois, il y a des bonnes choses qui se passent, parce que les gens disent « Oh, il faut que je mette ma vie en ordre, ça c'est correct. » Mais il y a d'autres choses qui peuvent être produites aussi. Des fois, ça peut ébranler les gens. Surtout, ça peut ébranler les gens le 24 septembre ou le 23 septembre, quand, oh, si on partage avec tout le monde une telle prophétie et ça ne va pas avoir lieu. Donc, les gens mettent en question les autres choses. Est-ce que vous me suivez? Donc, moi, je fais mon devoir aujourd'hui comme pasteur, comme berger, juste au cas où qu'il y a des personnes qui ont, eux, les échos, qui ont, eux, connaissance de ces événements. Je veux en parler et je crois que la parole de Dieu nous donne les instructions dont nous avons besoin pour pouvoir en faire face, OK? Donc, regardons. Premièrement, on va lire ce passage. C'est assez long, mais c'est bon. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Donc, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens. Donc, ça, c'est pourquoi le titre aujourd'hui, c'est « Ne vous laissez pas ébranler ». Et encore, nous voyons ici que c'est quoi le but de l'apôtre Paul? Il y a plusieurs objectifs dans cette lettre, mais la première chose qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez ébranlés dans votre bon sens. OK? Regarde quelqu'un a dit, ayez de bon sens aujourd'hui. Donc, des fois, c'est une question de bon sens. Mais le bon sens vient d'une connaissance de la parole de Dieu et qu'est-ce que la Bible dit. Amen? Vous me suivez aujourd'hui? Donc, verset 2, et de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Okay? Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous. J'aimerais que vous souligniez le mot apostasie dans le troisième verset. Okay? Parce qu'on va revenir à ça dans juste une minute. Numéro 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, tu peux souligner le mot retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient, c'est déjà souligné dans mon note, encore est disparu, encerclé le mot disparu. OK? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on va expliquer dans une minute. OK? Donc, on est arrivé à verset 7. En fait, je vais juste arrêter là. Parce que, à partir de verset 3 jusqu'à verset 7, on a une grande parenthèse où l'apôtre Paul est en train de vraiment décrire l'avènement qu'on va appeler l'enlèvement de l'Église. OK? Et la manifestation de l'homme du péché. Et ce qu'on sait, on le sait tous, que la fin du monde est proche, oui, on pourrait dire. Mais en réalité, la parole de Dieu dit ça depuis 2000 ans. La fin de toutes choses est proche. Et c'est quand même encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et comme Pierre a dit en 2 Pierre chapitre 3, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire que si 2000 ans sont déjà déroulés depuis qu'ils ont commencé à dire cela, pour le Seigneur, c'est comme 2 jours. OK? Pour nous, ça peut sembler long, 2000 ans, mais pour lui, c'est comme 2 jours. Tout le monde dit, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est important. Mais ce que nous savons, si on regarde la parole de Dieu, c'est que nous sommes dans une période qu'est-ce qu'on appelle l'âge de la grâce. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sur la planète Terre ont l'occasion de donner leur vie au Seigneur Jésus et de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Nous sommes dans une période de grâce. Mais un jour, cet âge de grâce va prendre fin. Et il y aura 7 ans de tribulation sur la Terre. La Bible en parle et c'est vrai. Mais ces 7 ans de tribulation ont un but dans le plan de Dieu. Et après ces 7 ans de tribulation, Jésus va venir établir son trône sur la terre et on va avoir qu'est-ce qu'on appelle les millénaires, 1000 ans où Jésus va régner dans la paix ici sur la terre. Mais il y a quelque chose qui va se passer entre ces événements. On est dans l'âge de grâce, on sait que la tribulation s'en vient, mais avant que la tribulation commence, quelque chose doit arriver. L'apostasie, hein, et on pourrait dire la disparition de quelque chose. Le mot apostasie, littéralement, veut dire le grand départ. Des fois, c'est utilisé pour les gens qui vont partir ou quitter la foi. Mais je crois que dans ce contexte, ça parle des gens qui vont, on va avoir notre grand départ. Les enfants de Dieu, ceux qui retiennent l'homme du péché, parce qu'un jour, l'Antéchrist va venir et il va se manifester pour commencer vraiment ces 7 ans de tribulation. Mais l'Antéchrist ne peut pas se manifester aussi longtemps que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, parce que l'Église de Jésus-Christ retient l'Antéchrist. Mais un jour, l'apostasie ou le grand départ va avoir lieu, et ce qui le retient va disparaître, et ensuite, les 7 ans de tribulation vont commencer. Nous serons au ciel, on va voir les noces de l'agneau, et pendant ces 7 ans de tribulation, nous serons avec le Seigneur, et après, on revient avec Jésus pour régner avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est eschatologie de base dans quelques petites phrases. OK? Mais voilà le problème. Le problème, c'est que, même à l'époque de l'apôtre Paul, il y a des gens qui commençaient à circuler des rumeurs. Oh, mais tu sais, le jour du Seigneur est déjà arrivé. Nous sommes déjà dans la tribulation. On a manqué l'enlèvement. OK? Les gens étaient perturbés. Ils étaient ébranlés. Ils étaient vraiment dans la crainte et dans la peur. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui se passent, même aujourd'hui, des personnes qui essaient de fixer les dates et ceci et cela. Et ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit de faire. OK? Et on va voir cela aujourd'hui. Parce que moi, encore, en tant que pasteur, j'ai une responsabilité. Parce que des fois, il y a des personnes, ça vient de mes oreilles, des gens qui sont perturbés ou qui ont peur. Donc, on va voir cela. Et si on continue verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. J'aimerais que vous souligniez « reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ». Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est le but de cette lettre que Paul est en train d'écrire? En fait, on va voir ce matin 4 choses en général que l'apôtre Paul est en train de faire et pourquoi il a écrit ces choses. Et ça nous intéresse aujourd'hui parce que, en fait, les principes de ce message n'ont pas changé depuis 2000 ans. Tout le monde dit, ce message est pour moi aujourd'hui. Donc, c'est quoi la première raison pourquoi Paul a adressé cette lettre à ces chrétiens? Premièrement, c'est pour ne pas être troublé ou bouleversé. Donc, sachez que à chaque fois que quelqu'un qui est en Jésus-Christ entend un message qui vient vraiment de Dieu, OK, par rapport à l'enlèvement ou par rapport à qu'est-ce qu'on appelle les choses des derniers temps ou quand on voit cela, ou on reçoit un message, le fruit devrait toujours être de ne pas être troublé ou bouleversé. Si vous, en tant qu'enfant de Dieu, qui êtes en règle avec Dieu, si vous êtes bouleversé ou si vous êtes troublé, soit il y a quelque chose dans le message qui n'est pas correct, ou vous n'avez pas compris vraiment la nature de votre Père céleste. Vous me suivez? Parce que Dieu ne va jamais vous envoyer un message pour vous troubler ou vous perturber. Il peut vous envoyer un message pour que vous soyez capable de vous repentir, etc., bien entendu. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Quand on parle de l'eschatologie, qui est l'étude des choses des derniers temps, il y a des choses, des nuances, des fois, qui sont introduites. Des personnes vont prendre certains principes de base qui sont vrais, mais ils vont ajouter des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et c'est des choses qui sont ajoutées qui sont perturbantes, des fois. Comme encore, c'est pas juste là. Là, cette semaine, j'ai eu des échos, mais il y a quelques mois, j'ai eu d'autres échos, d'autres places, dans d'autres régions, des personnes qui commençaient à dire que, dans le fond, c'est pas tous les chrétiens qui vont être enlevés dans l'enlèvement. OK? C'est seulement les chrétiens qui sont vraiment, vraiment en train de vivre d'une certaine manière et qui sont vraiment attachés au Seigneur. Et si vous n'êtes pas assez attachés, vous serez laissés en arrière. Mais ce n'est pas un principe que nous voyons vraiment dans la parole. Je ne dis pas, je ne suggère pas de vivre comme le diable et croire que vous allez partir dans l'enlèvement parce que peut-être il y a d'autres choses. Posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus? Amen. Mais moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas avoir peur, crainte que, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis assez vigilant pour partir avec les autres chrétiens quand l'enlèvement va avoir lieu? Laissez-vous pas troubler. Le Seigneur vous aime. Si vous êtes en Jésus-Christ et Jésus-Christ vient, vous allez partir avec lui. Amen. Donc, il y a des personnes que j'ai entendues, ils font la distinction entre l'épouse de Jésus-Christ et l'Église, etc. Mais laisse-moi vous dire, ça c'est, je crois, dangereux de marcher sur ce terrain. C'est pas vraiment une bonne exégèse de la parole de Dieu. Amen? Donc, ne laissez-vous pas troubler ou bouleverser. Donc, on voit cela en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, « Car le Seigneur lui-même en signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, pas les vivants qui seraient assez bons, mais nous, il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux enfants du diable ici, il parle aux chrétiens, les gens qui sont nés de nouveau, nous, les vivants, qu'est-ce qu'il dit, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Soulignez cela, tous ensemble enlevés. On va le dire ensemble. Tous ensemble enlevés. Donc, cette doctrine que, bon, il y a une différence entre l'Église et l'épouse, c'est juste l'épouse qui va être enlevée, c'est pas basé sur la parole de Dieu. Est-ce que vous me voyez? Vous voyez qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Je ne veux pas que les gens soient troublés ou bouleversés. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est quoi la prochaine chose? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, les vrais enseignements de l'eschatologie ou des choses des derniers temps devraient être une source de consolation pour les croyants. Et si je vois des croyants qui sont perturbés, troublés ou qui ont peur, il y a soit, comme je dis, un manque de compréhension ou une erreur quelque part dans le message. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis, deuxième raison, pourquoi? Et toutes ces choses sont basées sur le passage qu'on a lu en 2 Thessaloniciens 2. Parce que dans le troisième verset, nous voyons aussi que Paul a écrit ces choses pour ne pas être séduit. Ne pas être séduit. OK? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Laisse-moi juste vous dire une chose. Quelqu'un qui est séduit ne cherche pas à être séduit. Hein? Ève ne cherchait pas à être séduit. Et souvent, il y a des personnes. C'est pourquoi? Si jamais vous êtes en contact avec quelqu'un qui propage des choses qui ne sont pas tout à fait correct, tombez pas dans le piège de penser qu'ils sont méchants ou malins ou qu'ils veulent faire quelque chose de mal. Non, souvent ils sont sincères, mais sincèrement dans le champ. Amen? Et c'est ça. Donc, on a besoin d'être conscient de cela, parce que sinon, on peut tomber dans le piège de juger, critiquer ou être fâché avec des gens, et ça donne rien. Mais on veut quand même se protéger contre la séduction. Il y a des doctrines qui se propagent, qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, et c'est ça que Paul est en train de corriger ici. Et juste en passant, je pense que je l'ai mis dans le PowerPoint. Est-ce que c'est là, le prochain diapo, si on peut avancer? Non, c'est pas là. Mais vous savez que je l'ai mis dans mes notes. Mais en Matthieu, on voit que Jésus a dit en fait que personne connaît l'heure, personne connaît le jour. Même quand Jésus était sur la terre, je suis en train de faire une paraphrase, mais il a dit, dans le fond, c'est juste le Père lui seul qui sait. Donc, déjà, on devrait être conscient que le moment que quelqu'un fixe une date, qui dit que telle date où ça va avoir lieu, déjà, quand il parle du retour du Seigneur Jésus, on sait que ça se peut pas que c'est le Saint-Esprit qui donne cette date. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez pas l'heure. Oui, on va connaître la saison. Oui, on va savoir que son avènement est proche. On va regarder, on va voir les signes des temps. Et on va, même dans notre cœur, le témoignage intérieur, quelque chose dans notre esprit qui peut nous avertir. Paul a dit aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous devrez être au courant que, oui, c'est proche. Mais proche, c'est une chose, mais savoir l'heure ou mettre une date, c'est une autre chose. Ne tombez pas dans le piège. Parce que, encore, malheureusement, c'est une chose qu'on voit depuis des siècles, depuis des milliers d'années, des personnes qui ont essayé de fixer les dates. Et puis, ils fixent une date, et quand la date n'est pas bonne, ils ont toujours une raison. Oui, une explication. Oui, mais, da-da-da-da-da. OK? On a vécu ça, Tanya et moi, en 1988. On était en Outre-mer, en train de faire du ministère en France pendant quelques mois, 3 mois ou quelque chose comme ça. Et on est revenu à notre maison où on habitait à Saint-Louis. Et j'avais un pile de courriers qui m'attendait parce que j'étais absent pendant 3 mois. Donc, je commence à trier les choses. Et tout d'un coup, je tombe sur une enveloppe. J'ouvre ça, il y a un petit livre à l'intérieur. Et le livre, c'est 88 raisons pourquoi nous savons que Jésus revient, je pense que c'est le 18 septembre 1988. Problème, c'est que moi j'ai ouvert ça le mois de novembre. Et j'ai crié, j'ai dit, ah chérie, on a manqué l'enlèvement! Et les gens qui ont fait des bêtises avec ça, OK? Je sais que des fois, les personnes peuvent en profiter et dire, wow, il faut que ma vie soit en ordre. Mais laisse-moi vous dire, vous n'avez pas besoin d'une autre prophétie. Déjà, ce que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est suffisant pour vous inspirer à mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Déjà, on a tous les avertissements dans la parole de Dieu de soyez sobres, veillez, vaquer la prière, mener une vie pure, il faut pas avoir honte à son avènement. Il y a toutes sortes des instructions et des avertissements, c'est net et c'est clair et c'est précis. On n'a pas besoin d'une autre prophétie où quelqu'un fixe une date pour être inspiré à mettre notre vie en ordre. Amen. Et je dis ça parce qu'il y en a encore. C'est ça les échos qu'on entend. Et pas juste ici, comme je dis. Ça fait quelques mois même que j'ai entendu les choses qui venaient des autres provinces et même des États-Unis, les mêmes genres d'enseignements. Et je sais pourquoi aujourd'hui je dis non. Moi, au moins, dans cette église à la vie comblée, je veux que vous soyez avertis et vous soyez capables de vraiment sonder les Écritures vous-même et avoir une pleine conviction de qui vous êtes en Jésus-Christ, de ne pas être troublé, de ne pas être séduit. Amen. Mais comme je dis, en 88, des personnes faisaient des bêtises. Moi, je connaissais des histoires des personnes qui ont allé faire du magasinage avec la carte de crédit parce qu'écoute, on n'aura pas besoin de payer la facture. Nous serons partis. Hein? Il y en a d'autres qui ont eu des fêtes à l'église. Ils ont bon, on va fêter et on va être dans la louange et l'adoration quand la trompette sonne. En quelque part, c'était un peu centré sur eux-mêmes au lieu d'être centrer sur, bon, si Jésus vient vraiment, on devrait aller évangéliser. N'est-ce pas vrai? Donc, on ne veut pas être troublé, on ne veut pas séduit. Et puis, une autre chose qu'on voit ici, Paul a écrit ces choses afin de rendre grâce à Dieu pour notre salut. On voit ça dans le 13e verset. On a lu cela en verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Je pense qu'en quelque part, il ne faut jamais oublier que c'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être sauvé de nos péchés. Donc oui, c'est important de savoir que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il peut venir le 22 septembre? Oui! Est-ce que ça se peut que le 21 à minuit, la trompette va sonner? Absolument! Mais ça peut être plus tard, ça peut être avant. On ne fixe pas de date. Et déjà en partant, dès que vous voyez ça, vous dites, non, je ne peux pas m'accrocher à cela. OK? Donc, ça c'est, comme Paul a dit, de ne vous pas laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Si vous avez du bon sens biblique, c'est ça. Et c'est important. Comme je dis, les personnes qui croient ça, sincères, malheureusement, j'avais des amis. J'avais même un ami qui était pasteur en 1988, et c'est mon ami qui a eu le parti avec son église pour se préparer pour l'enlèvement. J'étais comme, ça se peut pas. C'était mon ami. Et voilà. Est-ce que vous me suivez un matin? Bon. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je pense que c'est bon. On entend les messages sur la fin des temps et ça devrait, premièrement, nous aider à ne pas être troublés ou bouleversés, de ne pas être séduits, mais ça devrait aussi nous inciter à rendre grâce à Dieu pour notre salut. Merci Seigneur, que je sais qui je suis, et je sais que la colère s'en vient, je sais que la tribulation s'en vient, et je suis conscient que je ne serai pas là pour cela. Amen. Et on devrait être reconnaissant. Donc, puis, quatrième chose, on peut voir, c'est que ça nous aide, et il a écrit ces choses pour nous aider à accomplir notre appel. Pour accomplir notre appel. Verset 14 a dit cela. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur, etc., etc. Mais vous savez que nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Et l'Église est appelée à participer, à posséder la gloire de Dieu. Éphésiens 5, 27 dit, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, si vous entendez un message sur la fin des temps, c'est supposé, pas de vous faire peur, mais de vous inciter encore à remplir et terminer votre appel sur la terre. J'ai quelque chose à faire. Ça devrait juste me rappeler, bon, le temps est court, Jésus revient, il faut que je me mette à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Amen? Et encore, si on regarde à travers des années, souvent, ce n'est pas le fruit de ce qu'on voit avec certains enseignements. Il y a d'autres personnes qui enseignent tellement la peur et la crainte que nous serons dans les troubles tellement graves et sérieux que, au lieu d'évangéliser, j'ai déjà entendu des groupes de personnes qui vont aller se cacher dans le bois, créer des communes, des communautés où ils vont avoir des réserves, de la nourriture pour des années et des années. Ils vont conserver. Ils passent tout le temps pour stocker assez de nourriture pour survivre 7 ans du temps pendant la tribulation. Et puis, ils vont aller se cacher. En quelque part, est-ce que c'est ça notre appel? D'aller se cacher? Ou est-ce que notre appel, c'est d'aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle? Et de laisser luire notre lumière, être le sel de la terre, la lumière du monde? Encore, je sais que je touche à plusieurs exemples. Hein? J'ai pas entendu ça, qu'est-ce que je viens de dire? Les gens qui se cachent cette fois-ci, c'est autre chose. Il y a même des bonnes choses qui peuvent sortir des fois. Le Seigneur est capable de prendre n'importe quoi et le tourner pour sa gloire. Et s'il y a quelques personnes qui se répandent ou et qui se mettent en ordre à cause de même une mauvaise prophétie, tant mieux, au moins les choses sont réglées, n'est-ce pas? C'est bon, mais ça ne veut pas dire que c'était de Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et je suis content de savoir que dans sa parole, il nous donne les paroles de consolation et de réconfort et d'espérance. En fait, on va terminer aujourd'hui avec quatre choses, ou trois choses en fait, que nous pouvons faire et que, selon 2 Thessaloniciens 2, on doit faire dans la lumière de ce message des fins des temps. Si on ne va pas se laisser ébranler, numéro un, demeurez ferme en retenant les instructions que nous avons reçues. Demeurez ferme. Regarde quelqu'un et dit, demeure ferme. Mais comment est-ce qu'on reste ferme? En retenant les instructions. Savez-vous quoi? Dieu nous a donné toutes les instructions dont nous avons besoin ici dans ce livre. Et si on retient ces instructions, on n'a rien à craindre. OK? Et on voit quelque chose ici. C'est Colossiens chapitre 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Moi, j'aime ce langage. Enraciné, fondé, affermi. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Comme les arbres plantés. Et on doit être comme ça par rapport aux enseignements des fins des temps. Il faut que vous soyez affermi dans vos croyances. Et, comme je dis, les choses de base, c'est qu'on devrait tous savoir que personne connaît le jour, que personne connaît l'heure, et dès qu'on voit quelqu'un qui dit, ça va être telle date, on devrait tout de suite dire, non, rejette. On rejette pas, on n'accepte pas cela, parce qu'on peut pas, parce que ça contredit. C'est une contradiction complète de ce que dit la parole de Dieu. Amen? Donc, voilà. Donc, on voit cela, c'est clair. Demeurez ferme en retenant les instructions. Numéro 2, soyez consolés en tournant votre espérance vers Christ. Soyez consolés. Moi, j'aime le langage de verset 16. De 2 Thessaloniciens 2, qui dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs. C'est qui va consoler vos cœurs, selon ce verset, verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Savez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père, qui vous a aimé, il veut consoler votre cœur. OK? Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez la tribulation, oui. Il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. OK? Il y a une différence énorme. On va avoir des temps difficiles en tant que chrétien. Jésus a dit, vous allez entendre parler des guerres et des rumeurs de guerres, il y aurait des famines et tout cela, mais ne soyez pas troublés, il a dit. Ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. OK? Donc, il y a des choses qui vont avoir lieu. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, que les choses se préparent pour la tribulation? Absolument. On peut regarder, est-ce que c'est vrai qu'on peut regarder la technologie et voir, wow, il y a des choses aujourd'hui qui sont capables de faire, qui... Ça peut être effrayant. La même technologie qui aide les gens peut être vraiment effrayant si ça tombe entre les mains des personnes méchantes. Et moi, j'ai aucune doute. On regarde tous les types de informatique et toutes les puces, par exemple, et tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je peux suivre des personnes juste sur l'Internet. Moi, je connais des parents qui suivent leurs enfants sur l'Internet avec leur téléphone cellulaire. Ils sont capables de savoir exactement où ils sont à tout moment. Si vous êtes marié et votre conjoint va faire la course, il va acheter quelque chose, vous pouvez suivre, vous pouvez savoir. Deux secondes après une transaction, vous pouvez voir, ah, oh, il vient de dépenser 15 $ chez C'est pas cher. Vrai, pas vrai? On peut suivre, il y a des choses, et ça c'est merveilleux. Et bien entendu, ils vont mettre les puces dans les enfants même, mais ils suggèrent ça parce que si jamais il y a un enfant qui est kidnappé. Mais on sait que c'est juste une question de temps, après que l'Église est partie et que la tribulation commence, et tout cela, on sait que l'Antéchrist va se servir de toute cette technologie aussi. Ça, c'est vrai. On n'est pas en train de nier cela. Mais en même temps, il y a un autre esprit, des fois, qui est en arrière de certaines personnes qui ont toujours écrit, toujours complot, 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 et tout ce qui se passe, c'est un complot. Et moi, je crois que en tant que chrétien, on a besoin de faire attention à ça. Parce que des fois, il y a des choses qui sont sorties de leur contexte et qui sont pas vraies. Qui sont pas vraies du tout. Et qui sont en réalité même des mensonges. Et qu'est-ce qui est drôle? C'est pas drôle, mais c'est triste en réalité. C'est que si on mélange les choses tordues avec la vérité, c'est que oui, l'Antéchrist va se servir de la technologie et la technologie est déjà existante. Quand la Bible a été écrite, c'est difficile à comprendre comment est-ce que ça va se faire que quand Jésus revient, le monde entier va le voir. Mais aujourd'hui, avec la télévision, parce que la télé, c'est pas dû à croire. Hein? Comment est-ce que ça se peut qu'ils disent que si tu n'as pas le numéro de la bête, tu ne serais pas capable d'acheter? À l'époque, quand la Bible a été écrite, difficile à croire, mais aujourd'hui, c'est pas du tout difficile à croire. Parce que les gens n'utilisent plus l'argent, ils utilisent les puces et les chiffres fictifs et c'est tout électronique et bien entendu, on ne donne plus accès à tes affaires ou on ferme ton chip ou quoi que ce soit ta puce et c'est facile. Donc, on ne nie pas cela. Mais le problème, c'est quand on tord d'autres choses, quand on prend d'autres choses qui se passent et on va plus loin que qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va discréditer le vrai message de la parole de Dieu. Exemple, si ça c'est une chose qui est répandue, et on dit, bon, mais tu sais, on a une prophétie, ainsi dit l'Éternel, qu'il va revenir avant la première journée de l'automne, le 22 septembre 2009, et puis le 23 arrive, tout le monde dit, ben, mais écoute, ils ont dit ça, mais les autres choses qu'ils ont dit, est-ce que c'est vrai ou non? Donc, ajoutons pas les choses. Restons avec la parole. Tout le monde dit, restons avec la parole. On a déjà assez dans la parole pour nous donner la victoire dans ces derniers jours. Amen. Oui, Dieu va donner les prophéties des fois, mais les prophéties sont pour exhorter, consoler, réconforter, et c'est toujours une confirmation et jamais une contradiction de ce qui est déjà écrit dans la parole. Chaque prophétie doit être jugée. C'est notre responsabilité. Donc, demeurez ferme en retenant les instructions. On en a dit, soyez consolés en tournant votre espérance vers Christ et en verset 1 Pierre 1,13 qui dit, c'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et agir. Moi, j'aime ça. Rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. C'est ça qu'on doit faire dans ces derniers jours, n'est-ce pas? Rassemblez vos pensées, rassemblez vos énergies et soyez prêts à aller de l'avant avec action. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Wow! Voulez-vous savoir quoi faire dans ces derniers jours? Gardez-vous le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Toute votre espérance. Mettez pas votre espérance dans le gouvernement. Mettez pas votre espérance dans un personnage ou qui que ce soit. Mettez votre espérance en Jésus-Christ lui-même et vous ne serez pas déçus. Amen. Donc, finalement, numéro 3, affermissez-vous en toute bonne œuvre et toute bonne parole. C'est ça qu'on a vu en verset 17. Console vos cœurs et vous affirmez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Encore, À chaque fois que nous entendons parler du fin du monde ou l'enlèvement de Jésus, ça devrait nous affermir dans notre bonheur et dans nos paroles. Je devrais me rappeler du fait que je suis l'ouvrage de Jésus-Christ. Je suis ici pour une raison. Oui, Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis prêt? C'est une bonne chose de sonder son cœur et de se poser la question. Est-ce que je suis vraiment prêt? Pas parce que je... Moi, j'ai pas peur de manquer l'enlèvement. Parce que je crois que nous tous, ensemble, nous serons enlevés. OK? C'est pas une question pour moi que les enfants de Dieu vont être laissés en arrière. Ceux qui connaissent pas Jésus, c'est une autre histoire. Ils auront besoin de passer par la tribulation et... refuser de prendre la marque de la bête et tout cela pour être sauvé. Ça, c'est officiel. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, on va être enlevés tous ensemble. Tout le monde est tous ensemble. Mais, on va être enlevés tous ensemble, mais la parole de Dieu dit en Corinthiens chapitre 3 que nous allons tous, en fait, être, 2 Corinthiens 5, 10 aussi, dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et quand je vais me présenter devant le tribunal de Christ, ça ne se fait pas en gang. C'est pas, OK, la vie comblée, venez-vous-en. OK, l'église de Pentecôte, venez-vous. Non, non, non. Ça serait moi. Même, je ne serais même pas avec mon épouse. Nous sommes une seule chair. Mais ça, je serais tout seul, moi et mon Seigneur. Et je vais avoir un compte à rendre à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est là où on a besoin d'être prêt. La parole de Dieu dit cela, hein, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne veut pas avoir honte à son retour. Et il y a des chrétiens qui ils vont partir, mais c'est comme, oh, pendant le vol, ils vont dire, je n'étais vraiment pas prêt aujourd'hui. J'aurais dû mettre les choses en ordre. Mais ils sont partis quand même. Vous comprenez? Et 1 Corinthiens 3 dit que tout le monde va rendre compte, tout le monde doit bâtir sur la fondation. Il n'y a pas une autre fondation qui peut être posée sauf Jésus-Christ. Mais tout le monde doit choisir les matériels avec lesquels il va bâtir sur la fondation. Avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, ou avec du bois, du chaume ou du foin. Alors, et l'œuvre de chacun sera manifestée, et ceux dont l'œuvre subsiste, il va recevoir une récompense. Mon Dieu, une récompense. Ceux qui n'ont plus d'œuvre, parce que c'était du bois, du foin, de la chaume, eux autres, ils disent, ils vont avoir une perte. Ils vont perdre leur récompense. Eux autres, ils seront sauvés, mais comme quelqu'un qui s'échappe du feu. Donc, ça, c'est biblique. C'est biblique de dire, soyez prêts quand Jésus revient, parce que vous aurez un compte à rendre. Ça se peut que vous allez perdre vos récompenses si vous n'êtes pas prêts. Mais ça, c'est différent que de dire que l'épouse et l'Église sont deux entités différentes et qu'il y a des chrétiens qui vont être blessés, d'autres chrétiens qui vont partir. Ça, c'est pas biblique. Allô? Je vous donne des bonnes choses simples aujourd'hui, mais quand même, pour que vous ne soyez pas troublés, pour que vous ne soyez pas perturbés, mais que votre cœur soit consolé. Mais consolé, mais en même temps, peut-être j'ai besoin de me brasser un peu. Parce que Jésus revient. Et on le sait depuis longtemps. Bon, on continue. Il y a un verset qu'on va terminer avec ça, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Encore, Pierre, l'apôtre, qui a écrit cela il y a presque 2000 ans, il a dit, la fin de toutes choses est proche. Les gens posent la question, est-ce qu'on est dans les derniers jours? Oui. Depuis le jour de Pentecôte, on est dans les derniers jours. Parce que Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Même mes servants et mes servantes vont prophétiser et tout cela. On sait que les derniers jours, dans le fond, c'est cette période de cet âge de grâce. Tout l'âge de grâce est appelé les derniers jours. Mais on sait que les dernières minutes des derniers jours s'en viennent aussi. On est plus proche aujourd'hui que quand nous avons cru, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? La fin de toutes choses est proche. Alors, il dit quoi faire? Allez vous cacher dans les montagnes avec une grande conserve de réserve de boîtes. Non, c'est ça? Non. Je m'excuse, hein, ça c'est l'autre version. La fin de toutes choses est proche. Vivez donc d'une manière, quoi? Raisonnable. Et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Et ça, c'est une chose, comme je dis. Et même dernièrement, cette fameuse prophétie pour le 22 septembre, je sais que pour quelques-uns, ils ont dit, waouh, si c'est vrai, il s'en vient le 22, on va mettre les choses en ordre et vivre d'une manière, tant mieux! Mais on ne peut pas accepter non plus le contexte. Vous êtes d'accord? La fin de toutes choses est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir, quoi? Prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc, la vie dans les derniers temps doit être marquée par une manière de vie qui est réservée et raisonnable, une manière de vie qui est remplie de prières. Ça doit être aussi marqué par un grand amour les uns pour les autres. Voulez-vous savoir comment vivre dans les derniers jours? Aimez-vous ardiment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le quoi? Le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu et que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ à qui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Encore, qu'est-ce qu'on fait dans les derniers jours? On dit, Seigneur, tu reviens bientôt, la fin de toutes choses est proche. Je veux mettre mes dons et mes talents au service de l'Église. Je veux marcher dans l'amour. Je veux vivre d'une manière qui est sobre. Je veux vaquer à la prière. Je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Je veux faire ta volonté. Et avec cette attitude d'amour qui couvre une multitude des péchés, on est correct. Amen. Alléluia. Et encore une dernière fois, si jamais vous avez connaissance de ces genres de prophéties, juste en passant, est-ce qu'il y a des gens ici, qui ici a entendu les choses, les échos de ces choses? Hein? Il y en a quand même... Il y a plusieurs personnes, un bon pourcentage. Et avec l'Internet aujourd'hui, laisse-moi vous dire, juste en tant que pasteur, ça c'est mon cœur du berger qui parle, avalez pas tout ce qui arrive dans votre boîte à lettres sur l'Internet. Allez vérifier dans votre propre Bible et la plupart des fois, si vous ne connaissez pas vraiment les personnes qui vous envoient de quoi, ma stratégie, c'est vraiment simple. Hein? C'est dossier 13, ou on peut dire le classeur circulaire, où on flush ça. J'ai pas du temps à gaspiller avec ça. Et en quelque part, je me suis dit, bon, mais ce matin, j'ai quand même à cœur d'avertir l'Église en disant, bon, il y a des choses qui vont venir à vos oreilles. Là, ou peut-être dans 2 ans, si on est encore là, je ne sais pas, parce que ça se peut que Jésus va revenir ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Ça serait parfait. Mais s'il ne vient pas pour notre 2 ans ou 20 ans, on doit vivre d'une manière sobre pour vaquer à la prière, pour marcher dans l'amour, pour mettre nos dons au service des autres et gloire à Dieu. Amen. Mais faites pas l'erreur de juger ceux qui ont entendu ces choses ou même partagé ces choses. Priez pour les gens, priez que les gens fixent le regard sur le Seigneur et qu'ils restent ancrés dans la parole de Dieu. Amen. On va se lever debout et si quelqu'un peut aller chercher Tania pour qu'elle vienne. Fanny va venir jouer d'abord. Donc, on n'a pas besoin de Tania d'abord. Moi, j'en ai toujours besoin. Ma douce moitié. Donc, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que ce matin, nous avons entendu des choses simples, mais quand même importantes et profondes de la parole. Seigneur, merci que nous sommes ton Église, nous sommes ton épouse, et on veut se préparer, Seigneur, pour ton retour. On veut être prêt. On ne veut pas avoir honte quand tu reviens. Mais on veut avoir de l'assurance dans ta présence, en sachant que nous avons accompli les choses que tu nous as confiées, que nous avons, Seigneur, couru dans la piste qui nous a été ouverte, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sonde votre cœur ce matin. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Jésus? Si la trompette sonne, aujourd'hui, demain, dans deux semaines, deux mois ou deux ans, est-ce que vous êtes prêts? Premièrement, posez-vous la question, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Parce que si vous n'êtes pas encore dans la famille de Dieu, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir cette assurance ou cette espérance d'être enlevé avant la tribulation. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si vous êtes déjà dans le corps de Christ, n'ayez pas peur, mais examinez votre vie. Foncez, marchez avec droiture. Mettez ces paroles en pratique. Et vous savez qu'à chaque dimanche matin, je donne l'occasion à ceux et celles qui sont ici présents de donner leur vie à Jésus. J'aimerais juste vous poser la question. Si la trompette sonne, et tous les chrétiens qui ont vraiment donné leur vie à Jésus-Christ partent, savez-vous que vous allez partir avec? Ou si vous partez d'ici et votre cœur arrête de battre, et vous tombez mort et votre esprit quitte votre corps, savez-vous sans aucune doute que vous allez passer l'éternité avec Jésus? Vous dites, j'espère que oui, je suis une bonne personne. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est assez bon pour aller au ciel sur ses propres mérites. Vous dites, mais je lis la Bible, ou je prie, ou je fais des bonnes choses. Encore là, ce n'est pas ça qui va vous rendre digne du ciel. La seule chose qui peut vous donner cette assurance, c'est de savoir que ton cœur appartient à Jésus. C'est de savoir, sans aucun doute, que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort. Et Jésus a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. » Jésus a dit à Marc, chapitre 8, 38 aussi, qu'il ne faut pas avoir honte de lui à son retour. Donc, j'aimerais juste savoir, s'il y a quelqu'un ici, que si vous êtes honnête, vous n'avez vraiment pas encore cette assurance, mais vous voulez aujourd'hui être sûr d'être sauvé de vos péchés et d'être en règle avec Dieu. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Je vais compter à trois, taper ma main. Dès que je tape ma main, lève ta main haut dans l'air et on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Un, deux, trois, levez la main. Quelqu'un? Personne ici en arrière? Quelqu'un d'autre? Je levais la main. J'aimerais te demander à venir. On va faire quelque chose. On va prier ensemble. Monsieur, si tu veux venir ici en avant. Quelqu'un d'autre qui a besoin de le rejoindre? N'ayez pas honte de lui. Donc, ton nom encore, c'est Jacques. On va faire une prière avec toi, Jacques. Et j'aimerais que tout le monde prie avec lui. Amen. On va prier ceci. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te donne ma vie aujourd'hui. Sois mon maître. Prends le contrôle. Merci Seigneur, que ton sang m'a lavé de tous mes péchés. Je suis pardonné, je suis pur et je suis ton enfant. J'ai une place réservée pour moi au ciel. Mon nom est dans le livre de la vie. Et merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
On peut remercier le Seigneur pour lui. Amen. C'est bon. Ça, c'est important. Je ne sais pas si tu as déjà une Bible, mais Sylvain qui est ici, il a une Bible qu'il aimerait t'offrir. Si tu as des questions, Sylvain, tu peux parler avec lui par la suite. Mais on va prier tous ensemble aussi. Oui. OK. Bon, on va prier Nathalie. La Bergeron est tombée sans connaissance au travail, tout dernièrement. On n'a pas de distance dans l'esprit. On croit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, on va prier pour Nathalie aussi. Donc, merci, Pasteur. Juste lève nos mains vers le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous prions pour Nathalie. Nous te remercions, Seigneur, que ta main puissante est sur elle. Et, Seigneur, que tu vas, Seigneur, lui donner la force dont elle a besoin. Tu donnes la sagesse à ceux qui l'entourent de savoir c'est quoi juste le problème. Et nous déclarons au nom de Jésus que Nathalie, tout le monde dit au nom de Jésus. Nous déclarons que Nathalie, Seigneur, va être en forme. Et merci, Seigneur, qu'elle va être protégée, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour ta main puissante qui la soutient. Merci, Seigneur, pour l'amour parfait qui bannit la crainte. Et Seigneur, au nom de Jésus, il n'y a aucune peur, aucune crainte qui va nous empêcher, Seigneur, de croire en toi ou de nous réjouir en toi, au nom de Jésus. Merci, Père Céleste, que tu es bon, que tu es digne de louange. Amen! C'est un peu différent comme message ce matin, mais je crois, combien de vous, vous avez quand même appris des choses, ou ça vous a rappelé des choses importantes ce matin. Donc, ne soyons pas troublés, mais marchons de l'avant avec le Seigneur. On va faire un dernier chant, mercredi soir à 7h, soyez là. Comment échapper des pièges de l'ennemi, c'est à ne pas manquer. Dimanche prochain, on est ici avec Dr. Jim Caseman. Venez nombreux, amenez des amis, et que le Seigneur vous bénisse.